Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, aussi Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Nous poursuivons notre série donc consacrée à la marche, à la mobilité, au mouvement. On va s'intéresser ce matin aux migrations. Qui est mobile aujourd'hui? Peut-on voir une nouvelle fracture entre sédentaires et nomades ou néo-nomades? Sommes-nous tous égaux face à la mobilité? Quelles sont les inégalités en matière de mobilité? Et inversement, en quoi la possibilité de se mouvoir produit-elle en retour des inégalités? Bien sûr, il est difficile de parler mobilité aujourd'hui sans penser aux migrants qui tentent le périple jusqu'à l'Europe, bien souvent au péril de leur vie.
Nous avons reçu un appel au secours du poste de coordination de Rome. Il s'agit d'un canot pneumatique avec environ 110 personnes à bord.
Vous savez pourquoi on va en Europe? Car chez nous, on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide.
J'ai marché 7 jours à pied dans les montagnes du Pakistan. Les contrebandiers, tout ça, c'était très dangereux. 2 fois, j'ai failli me noyer. Mais c'est comme ça. Je dois continuer.
Lorsque le bateau est renversé, nous tous, on sentait qu'on allait mourir. Dieu a fait qu'on ait 26 qui sont sauvés par les Anglais.
On a beau rêver de partir en Italie, à Europa. Aujourd'hui, rêve réalité. On a beau rêver de se sentir en Europa. Aujourd'hui, rêve devenir réalité. On se sent.
Oui, difficile de parler de migration contemporaine, de nomadisme contemporain, pardon, de migration sans penser à la fameuse crise migratoire et des drames qui surviennent sur ces routes de l'exil. Pour rappel, ce sont plus de 5000 personnes qui ont perdu la vie en traversant la Méditerranée sur l'ensemble de l'année 2016, contre 3771 en 2015. S'il y a eu moins d'arrivées en Europe en 2016, les accidents mortels ont été plus nombreux, d'où notre choix évidemment de donner à entendre ces voix pour entamer cette émission sur les mobilités. Pourtant, c'est de nomadisme entendu au sens large dont nous allons parler ce matin. Dans un monde globalisé, traversé donc par des dynamiques nomades, c'est devenu un poncif. On décrit notre monde comme un village global. Nous pouvons et devons beaucoup plus nous déplacer. Les nouvelles technologies nous permettant de faire circuler en un temps record les pensées et les corps. C'est d'ailleurs peut-être le propre de l'humain que d'être tiraillé entre l'envie de bouger et celle de se poser. Mais la mondialisation est venue exacerber, c'est vrai, ce tiraillement. Par ailleurs, cette même mondialisation, produit et moteur d'une urbanisation inédite, a abouti à la constitution de groupes inégaux face à la mobilité, avec d'un côté les nouveaux nomades qui parcourent le monde et dont les connexions économiques, politiques, culturelles avec l'extérieur sont centrales, et puis ceux qui la subissent, qui se trouvent contraints de rester sédentaires, inexorablement attachés, ancrés à un territoire dont ils ne peuvent que très difficilement s'extirper. Alors faut-il être nomade, mobile, pour être en phase avec notre monde contemporain? D'ailleurs, quelles sont les différentes formes de mobilité? Qu'est-ce que cette nouvelle mobilité produit sur les équilibres économiques, sociaux, politiques? Peut-on encore être sédentaire au XXIe siècle? Les sédentaires sont-ils voués à rester précarisés? Et la mobilité est-elle forcément un atout? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, 2 invités avec nous en plateau. D'abord, Lamia Misaoui, qui est en train de s'asseoir, qui arrive tout juste en studio. On va les laisser tranquillement s'asseoir, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et puis rattachée au laboratoire Printemps, co-auteur notamment de Transmigrants et Nouveaux Étrangers. À ses côtés, Michel Lussault, qui lui est déjà bien installé. Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur à l'Université de Lyon. Vous êtes cofondateur, mais aussi éditorialiste dans cette revue Tous Urbains, auteur de nombreux ouvrages, L'homme spatial, de la lutte des classes à la lutte des places, L'avènement du monde et puis l'hyperlieu. Au pluriel, dont on parlera probablement dans cette émission, qui va paraître dans quelques jours aux éditions du Seuil. Michel Lussault, on a commencé en entendant des voix de migrants. Si on considère que le monde est d'une certaine manière divisé en deux, composé d'individus qui seraient sédentaires, ancrés sur un territoire, et puis d'autres qui seraient des acteurs nomades, qui seraient ceux qui sont en mouvement, ou qui, même s'ils sont immobiles au sens physique du terme, conservent justement cette capacité de déplacement. Ce qui sous-tend évidemment un certain nombre de choses, de capacités, notamment économiques. Ce sont les fameuses élites urbaines, ces cadres supérieurs qu'on va retrouver essentiellement dans les grandes villes de nos pays riches, les fameux gagnants de la mondialisation, comme on les appelle souvent. Dans cette division du monde, le migrant, lui, il est ni complètement sédentaire, puisqu'il a été forcé finalement de quitter son propre territoire, son territoire d'origine, ni véritablement un nomade total, puisqu'il ne dispose pas vraiment d'une liberté dans son choix de déplacement. Comment situer le migrant dans cette division du monde, avec d'un côté les sédentaires et de l'autre côté les nomades, puisqu'ils sont ni complètement l'un ni complètement l'autre? Et ce qui va peut-être nous permettre de définir finalement ce qu'on entend aujourd'hui par sédentaire et par nomade. Michel Lussault.
Je crois que ce qui est très intéressant dans la figure du migrant, hein, pour employer cette expression, parce que le migrant c'est une réalité individuelle, une réalité sociale, mais aussi une figure, j'allais presque dire une figure narrative. Une figure qui est mise en scène dans des récits contemporains. Donc je crois que l'intérêt de la figure du migrant aujourd'hui, c'est qu'elle nous renvoie à cette intuition de Hannah Arendt qui affirmait, peu ou prou, je cite de mémoire, qu'aujourd'hui, à son époque, les apatrides étaient ceux qui posaient le plus de problèmes, en fait, aux États, qui étaient les plus bouleversants des ordres établis, qui provoquaient les évolutions les plus redoutables pour les décorums classiques des sociétés. Je pense que le migrant nous renvoie à cette difficulté, qu'il bouleverse les cadres et bouscule nos certitudes. Parce que lorsqu'on y réfléchit bien, un migrant n'est ni sédentaire ni nomade. Il est dans cet entre-deux, dans ce passage permanent. Ce faisant, il nous pousse à considérer qu'il est sans doute très utile de refuser les dualismes, les séparations binaires du social, entre d'un côté ceux qui seraient de purs sédentaires et de l'autre côté ceux qui seraient de purs nomades ou néo-nomades.
Mais on a un continuum, un spectre.
Voilà, je crois que ce qui est plus intéressant, en tout cas du point de vue du géographe, c'est de dire que pour chaque individu aujourd'hui, en raison même de ce que la mondialisation déploie sous nos yeux et nous donne à vivre comme expérience, chacun est mise en tension entre, d'un côté, ce que j'appelle les ancrages ou la sédentarité, c'est-à-dire ce qui nous arrime, ce qui nous fait nous arrêter, mais aussi ce qui nous promet de pouvoir trouver nos bases pour repartir, hein, ce qui nous fait éprouver une stabilité, que cette stabilité soit recherchée ou qu'elle soit contrainte, parce qu'on peut être aussi, si je puis dire, piégé par un ancrage. On peut être aussi dans une trappe territorial. On connaît beaucoup de ces situations-là où finalement l'ancrage est peut-être rassurant, mais c'est aussi quelque chose qui empêche de réaliser un projet ou tout simplement de tenter des choses que l'on n'avait pas l'habitude de tenter. Donc nous sommes chacun pris en tension entre cet ancrage et les mouvements, et les désirs de mouvement, et les nécessités de mouvement, et que là encore ces mouvements soient totalement contraint. Peut-être d'ailleurs y a-t-il moins de gens que l'on pense qui sont totalement contraints par le mouvement, y compris les migrants les plus pauvres, y compris les migrants syriens aujourd'hui sont parfois beaucoup plus volontaires que ce que l'on a l'habitude de considérer, c'est-à-dire ils manifestent beaucoup plus de désir de bouger que ce que l'on peut considérer. C'est d'ailleurs cela qui explique souvent leur désorientation et leur le fait qu'ils sont complètement désappointés de voir comment on les accueille dans les pays justement qui ne sont pas des pays hospitaliers. Donc ce mouvement peut être plus ou moins contraint ou plus ou moins choisi. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment ces ancrages et ces mouvements se combinent. Et
oui, parce que
chaque individu, en quelque sorte, en fonction de sa position sociale et biographique.
Puisque de toute façon, pour les nomades, il y a aussi ce besoin de ce fameux ancrage territorial dont vous parlez. C'est d'ailleurs absolument décisif pour organiser, d'une certaine manière, sa mobilité potentielle, en réalité.
Je crois qu'une des choses qui a été la plus mal comprise, y compris, et surtout peut-être par les pouvoirs publics dans le traitement, par exemple, de la jungle de Calais, c'est que même si les personnes présentes dans la jungle, pour la plupart, voulaient aller ailleurs, cette jungle pouvait représenter pour eux un espace-temps d'ancrage, un moment d'ancrage qui pouvait être pour eux profitable, utile.
Pour réorganiser sa vie,
pour préparer son mouvement ultérieur, pour commencer à travailler des réseaux sociaux, pour s'arrêter, se reposer tout simplement, bénéficier du soutien des des ONG ou d'un certain nombre de structures qui aident les migrants. Et le refus de considérer la jungle comme tous les espaces migratoires informels, comme des ancrages, montre bien l'impossibilité des pouvoirs publics de penser réellement ce qu'il en est du mouvement dans des sociétés mondialisées où chacun est pris en tension entre ce besoin d'ancrage ou ce désir d'ancrage, ce besoin ou ce désir de mouvement et ce besoin ou ce désir de télécommunication, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on donner aux migrants dans la jungle de Calais, eh bien on leur donnait la possibilité de bénéficier dans de petites échoppes de points de rechargement de leur téléphone portable et de leur smartphone, parce que ces smartphones étaient tout à fait importants pour eux, pour maintenir en état d'activité leur réseau
et ce
communicationnel.
En définitive, on en parlera tout à l'heure avec Dana Diminescu qu'on aura par téléphone. Lamia Missaoui, première chose qu'on entend dans le propos de Michel Lussault, c'est qu'il faut absolument s'extirper de cette idée d'un monde qui serait divisé en deux, comme je l'ai présenté, avec d'un côté les sédentaires et de l'autre côté les nomades ou néo-nomades, les fameux gagnants de la mondialisation. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. On est tous un peu l'un et un peu l'autre. En fonction du temps, en fonction du lieu sur lequel on se situe, les choses sont bien plus compliquées que ça. On est tous un peu des deux.
Oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On est tous un peu des deux. On est quand même, nous, en Europe, beaucoup plus sédentaire, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a instauré la sédentarité comme une forme de modernité. Et on réalise aujourd'hui que la modernité n'est peut-être pas là où on l'attend, et notamment la modernité est du côté de ceux qu'on estime étant les plus pauvres, et notamment ceux qui sont dans la mobilité constante. Alors constante avec bien sûr des ancrages, comme ça vient d'être clairement dit. Mobilité, pourquoi mobilité? Parce que je trouve que cette notion est intéressante. Parce que justement, elle nous impose de réfléchir sur la complexité des relations entre mobilité et sédentarité. Et combien, justement, ces migrants-là sont porteurs de modernité dès lors qu'ils se mettent en mouvement. Alors, votre émission d'hier commençait déjà à entamer le débat sur la marche, que je trouve intéressant. Et si, par exemple, je prends les années 80 avec ce qu'on a appelé les mouvements des beurs, et là aussi, c'est une marche très intéressante. Et ce mouvement des beurs, si on le prend avec la notion de... Si on essaie de l'analyser avec la notion de mobilité, eh bien, on pourrait peut-être l'appréhender comme étant un mouvement... Qui finalement instaure une certaine forme de modernité, puisqu'il y a une dualité de pensée, alors même que dans la réalité, c'est différent. La dualité de pensée, ça a été qu'on a pensé que ces gens qui se mettaient en mouvement, ils étaient en train de dire, ces jeunes, hein, c'était un nombre important de jeunes, ils étaient en train de dire à nos États-nations, à notre État-nation en France, que voilà, ils s'émancipent de leurs parents et ils demandent une intégration forte. Alors c'était exactement ça, en fait, ils demandaient une intégration forte. Alors il se trouve qu'ils n'ont pas vraiment été entendus, hein, pour cette intégration. Et on a dit très très rapidement, voilà, des gens qui s'émancipent de leurs parents, ils perdent la collectivité, ils rentrent dans la modernité. En réalité, leur père, qu'on estimait étant éloigné, était déjà en train de préparer le devenir de leurs enfants en étant eux-mêmes en mobilité. Ils se sont mis en marche. Ils étaient absents, en fait. On disait qu'ils étaient absents, mais en réalité, ils étaient déjà en train de préparer leur devenir. De crise en crise, eh bien, ils ont pris leur destin en main et sont mis à... Ils sont rentrés dans la mobilité après avoir eu un temps de sédentarité, très, très clair. Sédentarité professionnelle à côté des usines, sédentarité de logement, etc., pour qu'ils soient rentables immédiatement. Eh bien, ces pères-là sont rentrés dans la modernité en se mettant eux-mêmes en mouvement. Ils n'avaient pas disparu, puisque quand leurs enfants n'ont pas eu ce qu'ils ont demandé, cette fameuse intégration tant recherchée et tant vantée d'ailleurs par nos sociétés, eh bien, ces pères-là ont dit à leurs enfants, allez, on repart à notre tour, on se met en mouvement, parce que le mouvement est un des moments essentiels pour s'émanciper, finalement, et des sociétés d'accueil et des États-nations.
On va revenir dans quelques instants à ces migrants perpétuels, ceux qui sont en mouvement perpétuel d'une certaine manière, puisque c'est un peu ce que vous avancez avec cette nouvelle nature, cette nouvelle figure qui serait celle du transmigrant. On va l'évoquer dans un instant avec vous. Mais Michel Lussault, vous dites que ce sont ceux qui peuvent faire de leur instabilité un capital productif qui l'emporte aujourd'hui. Quelles sont les conditions justement qui permettent aux nomades, appelons-les comme ça, les élites de la mondialisation, on les appelle comme ça aussi, ceux qui ont cette potentialité de la mobilité, quels sont les critères qui leur permettent justement d'être un nomade potentiel. Il y a des critères évidemment économiques, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il y a des critères qui renverraient à une analyse de ce que jadis Pierre Bourdieu a appelé les capitaux sociaux et culturels, à l'évidence. D'ailleurs, pour s'en prouver, pour en être certain, il suffit de constater qu'aujourd'hui, dans le champ politique, l'apologie de la sédentarité, j'allais dire même l'apologie de l'enracinement, c'est-à-dire un ancrage qui va au-delà de la stabilisation dont je parlais tout à l'heure, mais qui va jusqu'à lier une identité individuelle et sociale à un lieu ou à un ensemble de lieux et aux valeurs supposément portées par ces lieux. Eh bien, cette apologie-là, c'est plutôt une idéologie politique conservatrice, voire réactionnaire.
Oui.
Et qui renvoie d'ailleurs à une réalité sociale, et en particulier au fait que, incontestablement, un certain nombre d'individus, hommes et femmes, vieux et jeunes, se sont retrouvés, en raison même du déploiement de la mondialisation, dans des espaces où ils ont été en quelque sorte piégés, c'est-à-dire des espaces où ils ne sont ni suffisamment dotés en capitaux sociaux, économiques et culturels pour pouvoir valoriser leur sédentarité. Parce que quand on est très riche, on n'a pas de problème pour valoriser sa sédentarité. Mais également pas suffisamment dotés pour pouvoir valoriser une mobilité qu'ils ne peuvent pas assumer. Ils sont pris au piège, des trappes territoriales qui ont existé jadis dans des quartiers d'habitat social, en périphérie urbaine, et qui existent
aujourd'hui
dans de nombreux États, et qui sont à la base, ces espaces, des électorats conservateurs, néoconservateurs et réactionnaires, dont on voit se manifester la colère
en Europe, aux États-Unis, oui, bien sûr.
En Europe et aux États-Unis. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est important pour moi, c'est à la fois de réfléchir, j'allais dire, de façon quasi anthropologique aux besoins d'ancrage et aux besoins de mouvement, parce que je pense en fait que tous les êtres humains ont besoin d'ancrage et de mouvement depuis toujours, et en même temps aux conditions sociales qui permettent à ces besoins de s'exprimer ou pas. Et dans ce cadre, il est intéressant de voir que l'hypermobile, celui qui valorise au mieux son mouvement, celui qui en fait un élément décisif de son identification sociale positive, eh bien, c'est le manager, le businessman, l'artiste, parfois même l'universitaire, celui qui bouge tout le temps et qui se réclame de ce mouvement pour dire « je suis complètement intégré à la mondialisation ». C'est, remarquez bien, la vieille jet set. La jet society, celle qui se déplace en jet d'il y a 40 ans, mais qui aujourd'hui, si je puis dire, travaillée par la montée en puissance du transport aérien tout azimut, qui est la clientèle de choix des compagnies aériennes. Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes valorisent à ce point la business class? C'est parce que c'est évidemment la cible prioritaire qui est la leur du mobile doté, qui peut faire de cette mobilité un signe de sa réussite. Mais paradoxalement, le deuxième hypermobile, c'est le migrant.
Oui.
C'est le migrant qui transcende les catégories, le transmigrant qui traverse absolument tout, qui parfois d'ailleurs même colporte une mémoire transgénérationnelle de la migration, comme il a été suggéré tout à l'heure. Mais alors là, ce qui est étrange, c'est que là, ce migrant devient une figure répulsive aux yeux de certains. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir l'ambivalence de l'image de la mobilité.
Oui. Lamia Minissaoui, vous avez coécrit avec Alain Tarius et Fatima Kacha « Transmigrants et nouveaux étrangers ». Vous y évoquez donc ces migrants internationaux pauvres qui ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans les pays riches, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis, mais qui pourtant demeurent les colporteurs du capitalisme marchand moderne, c'est ce que vous écrivez. Et qu'ils sont bien utiles, évidemment, tous ces gens-là, aux grandes multinationales qui savent parfaitement les utiliser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous entendez exactement par « transmigrants » et qu'est-ce qui vous semble nouveau, novateur dans leur approche de la migration et dans leur manière de s'inscrire dans nos sociétés contemporaines.
Oui, tout à fait. Oui, alors cette catégorie de population est intéressante parce que c'est non seulement une nouvelle figure du migrant, mais c'est aussi une nouvelle forme sociale de migration, clairement, qui est organisée de telle sorte à ce que n'a de sens réellement que le pays d'origine, qui est extrêmement valorisé, et tout le reste ne s'organise que par étapes. Donc on a affaire à une migration qui circule et qui s'arrête dans plusieurs villes sur le chemin et qui finalement à chaque fois qu'elle s'arrête qu'il s'arrête ce groupe social, eh bien il part ethnique entre guillemets avec une origine bien particulière et à chaque étape, parce que la migration ne s'organise plus comme on l'exprimait auparavant, d'un lieu de départ avec un lieu d'arrivée.
Sur lequel on va se sédentariser
et on va se contenter ou subir les injonctions étatiques finalement qui nous invitent à nous intégrer, à rentrer dans la norme sociale, etc. Là, on a affaire à un groupe social finalement qui a décidé que les pays traversés ne seraient plus que des étapes et c'est des... Ces moments d'étape sont extrêmement forts, extrêmement riches, où on passe de l'ethnique finalement au cosmopolitique, où on fabrique du cosmopolitisme. Et ces lieux qu'on traverse, et ces lieux dans lesquels on s'installe pendant un moment donné, hein, ces 3, 4, 5, 6 mois, en général, fabriquent quelque chose de suffisamment fort, de suffisamment intéressant, qui marque de façon incroyable ces lieux là et qui deviennent ce qu'appellerait Alain Tarius par exemple des territoires circulatoires, des lieux qui porteraient la mémoire d'une certaine pratique sociale extrêmement liée aux initiatives économiques de ces populations là.
Lamia Missaoui, je voudrais poursuivre un tout petit peu avec vous et puis je vous donne la parole ensuite Michel Lussault, mais on voit bien que ce qui est très intéressant dans cette figure du transmigrant, c'est que il ne cherche plus nécessairement à se sédentariser. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on essaye de regarder le parcours de ces transmigrants ? Est-ce que c'est comparable à ces migrants, disons, plus traditionnels qu'on va retrouver dans des centres d'accueil, qu'on va retrouver dans des camps de fortune, à Calais ou que sais-je encore ? Ou est-ce qu'il y a des trajectoires, des parcours spécifiques ? Et à quoi ils ressemblent, si c'est le cas ?
Alors, ce qui les différencie, en tout cas, ce que j'appellerais moi de façon un peu rapide les ayants droit, ceux qui sont très dépendants de nos institutions, de notre générosité républicaine, pour le dire rapidement, et ceux-là, ils ont, et c'est la raison pour laquelle la notion de mobilité là encore est importante, et ils ont réellement un projet de vie, ils ont un projet de circulation, ils ne partent pas au hasard des chemins, ils ont un lien très fort avec les leurs sur place. Ils ont sur place dans tous les lieux d'étape qu'ils remobilisent constamment.
Et c'est avec là les migrants traditionnels,
les autres
ceux
migrants
qui sont
traditionnels,
partis avec l'objectif de se sédentariser.
Tout à fait. Et la nouveauté est justement dans cette, pour rebondir sur la notion d'hospitalité qui a été utilisée tout à l'heure, la nouveauté c'est que ces nouveaux migrants, ils ont clairement compris qu'on veut plus d'eux en Europe, quoi. Mais par contre, leurs collègues, confrères, anciens migrants sédentarisés qui se sont mis en mobilité dans les années 80, justement pour rebondir sur ces, pour, en tout cas pour défier les multiples crises que nous traversons. Eh bien, ceux-là mettent à disposition, par exemple, des logements dans lesquels ces transmigrants peuvent s'installer quelque temps, plus ou moins long, quelque temps pour pouvoir et se ressourcer d'une part, mais aussi organiser leurs multiples, comme je les appelle, les colporteurs du capitalisme, eh bien, organiser leur capacité à interréagir économiquement grâce à un différentiel de richesse que nous proposons.
Et Michel Lussault, c'est absolument passionnant ce qu'explique Lamia Missaoui. Et il y a une question qu'on pourrait se poser, à laquelle je pense maintenant, c'est finalement qu'est-ce qui a produit cette rupture dans la forme migratoire et dans la figure même de ce transmigrant qui émerge là. Est-ce que c'est d'une certaine manière le résultat d'une mondialisation un peu folle et qui, du coup, du point de vue des économies, des multinationales, a obligé justement ces acteurs économiques à avoir recours à ce genre de figures-là et donc elles ont naturellement émergé? Est-ce que c'est peut-être le contre-coup d'une certaine manière d'États qui de plus en plus se replient sur eux-mêmes et donc refusent justement la sédentarisation de migrants qui viendraient sur leur propre sol? Il y a pas mal d'hypothèses. Comment est-ce que vous voyez les choses, Michel Lussault?
Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. On a pas forcément de certitude et il n'y a pas d'interprétation unique. Elles sont toutes encore discutées. De mon point de vue, je dirais que c'est le résultat de comment le dire de façon claire, parce que ma formulation va être un peu paradoxale. C'est le résultat du fait que le monde est de plus en plus mondialisé. Voilà, que l'urbanisation généralisée du monde, qui est une urbanisation aussi des genres de vie, a brouillé toutes les frontières, tous les registres. Et cette urbanisation généralisée, depuis 50 à 60 ans, a construit le monde en espace social d'échelle terrestre, d'échelle planétaire. Le monde est notre espace de jeu aujourd'hui. Mais écoutez, il l'est pour les touristes. 1,3 milliard de touristes se déplacent chaque année. C'est la plus grande mobilité mondiale à l'heure actuelle, c'est celle du tourisme. Le touriste fait du monde son espace de jeu, de référence, de jeu, ne prenons pas ça au sens péjoratif. Le touriste est un stratège logistique. Eh bien, le migrant est un stratège logistique. Il faut sortir de l'image du migrant qui est un simple jouet de mouvement qu'il dépasserait. Vous savez, un simple item dans un stock qui serait emporté par le torrent.
Et qui ne ferait que subir sa mobilité. En réalité, il l'organise.
Ça n'est pas vrai. Ce qui est frappant lorsqu'on étudie les trajectoires migratoires, et Alain Tarius, Michel Perradis et quelques autres ont fait des travaux absolument décisifs dès les années 70-80 sur ces questions-là, c'est que le migrant n'est pas agi, il est acteur. Il pose des actes, il recherche des solutions économiques, des solutions géographiques, des solutions en termes de réseaux sociaux. Migrant a un projet.
C'est très important ce que vous dites, parce qu'en réalité, ça devrait nous faire réfléchir sur nos désirs ou notre refus, c'est plutôt le refus, d'organiser l'accueil de ces migrants. Puisqu'ils ont leur propre choix migratoire, puisqu'ils ont leur propre projet de mobilité, c'est très difficile de mettre en face, d'une certaine manière, un contexte, un environnement qui va convenir s'inscrire dans ce projet de mobilité. C'est un vrai défi.
Un point là-dessus, dans mon prochain livre, j'étudie beaucoup le cas de la jungle de Calais.
Ouais.
Et je dis qu'il y a eu un contresens sur la jungle de Calais. Personne n'a voulu y voir ce que c'était, en fait. C'est-à-dire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un espace d'ancrage. On s'est ému, par exemple, que dans la jungle des Calais, les migrants organisent des commerces. On a trouvé ça absolument scandaleux. On a même, la préfecture s'est même fendue d'une démarche pour interdire ces commerces qui n'étaient pas réglementaires et qui ne correspondaient pas en particulier au règlement de sécurité incendie. Non, mais on croit rêver. Évidemment qu'ils n'étaient pas réglementaires. Mais personne ne s'est posé exactement la question du pourquoi ces commerces. Mais tout simplement parce que la vie était là, parce que la cohabitation était là, parce que ces migrants étaient en train... dans des circonstances que aucun d'entre eux ne jugeait bonnes. Il ne s'agit pas de faire du misérabilisme. Tous les migrants qui étaient à Calais savaient très bien quelles étaient leurs conditions de vie et qu'elles étaient difficiles. Mais ils savaient aussi que ces conditions de vie étaient à la fois tragiques et impotentielles. Ils savaient aussi que Calais, c'était à la fois un drame, dans une certaine mesure, et un tremplin possible. Et ils voulaient tout simplement s'organiser, y compris... se faire un petit pécule, un petit capital pour pouvoir le réinvestir ailleurs. Les migrants sont aujourd'hui des acteurs cosmopolites, des logisticiens d'échelle mondiale, et notre incapacité à les traiter autrement que sur le mode punitif ou sur le mode compassionnel, parce que beaucoup de migrants ne veulent pas de compassion, ils veulent simplement pouvoir trouver des ressources sociales pour réaliser leur projet migratoire. Donc nous sommes face à un contresens complet par rapport à la question de la migration, parce que je pense que nos idéologies politiques dominantes, aujourd'hui conservatrices, sont surdéterminées par l'imaginaire de la sédentarité, l'imaginaire du territoire national, l'imaginaire de l'ancrage qui devient un enracinement. Et ça devient aujourd'hui un problème politique majeur.
Lamia Moussaoui, vous voulez réagir.
Dans la même continuité, la notion de mondialisation, paradoxalement, elle arrange beaucoup le migrant, en fait. Elle lui est très favorable parce qu'elle lui permet, finalement, dans ce qui vient d'être dit, d'aller vraiment partout. Et au lieu de subir cette mondialisation, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, il valorise les propositions de la mondialisation. Et ce qui est encore plus paradoxal qu'on peut l'imaginer, c'est que à la fois ce qu'on appelle l'élite, et notamment l'élite commerciale, les multinationales, etc., qui sont extrêmement, favorables à la mondialisation, favorables aux effondrements des frontières, par exemple, pour des raisons évidemment économiques et pas du tout de raisons généreuses ou autres, eh bien, il y a une certaine proximité entre les deux désirs. Mmh. Les migrants pauvres, et notamment les transmigrants, par exemple, sont extrêmement proches d'aller. Alors, je n'ai aucune prise de position là-dessus, hein, bien évidemment. Ils sont extrêmement proches dans leur prise de position avec les multinationales, par exemple. Et notamment, quand on parle de colporteurs du capitalisme marchand moderne, c'est vraiment que ces transmigrants sont devenus un des intermédiaires possibles qui transporteraient des marchandises très valeureuses, enfin, quotidiennes, hein, qui permet à des populations pauvres d'accéder à ce qu'on appelle, nous, notre richesse, en fait, finalement, d'accéder à notre niveau économique, d'accéder à nos connaissances, nos compétences, et par là même, en y accédant, eh bien, ils arrivent, selon certains discours que j'ai pu avoir, à obtenir du pouvoir sur nous, sédentaires. Parce que eux, ils transportent d'un endroit à un autre, évidemment, on peut le dire, probablement manipulés par les multinationales, hein, évidemment. Il n'empêche que ce lien très fort entre les transmigrants pauvres et les multinationales se croise dans ce désir de mondialisation qui fait, en tout cas, qui permet aux frontières de s'effondrer, de s'effacer, et aux États-nations d'être encore moins puissants qu'ils ne l'ont jamais été. Alors, peut-être que les États-nations continuent à courir derrière leur puissance, et ils sont mis à mal de façon irrémédiable par les transmigrations.
On parle cette semaine de la marche aujourd'hui, mobilité et inégalité, la nouvelle lutte des places. On aurait pu aussi intituler cette émission Nomade versus sédentaire, l'éternel combat. On est avec Michel Lusseau et Lamia Missaoui.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Michel Lusseau, votre dernier livre, Hyperlieu, les nouvelles géographies politiques de la mondialisation. Je dis le dernier, il va bientôt paraître en réalité. Je crois que c'est début février, ça sera aux éditions du Seuil. Vous êtes parti à la rencontre de lieux qui constituent, je vous cite, des points d'ancrage des individus et des groupes, c'est-à-dire tout à la fois des haltes qui les accueillent et des tremplins pour de nouveaux départs. Qu'est-ce que vous entendez par hyperlieu? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et nous dire ce qu'il révèle? Alors, il y a, par exemple, Calais, effectivement, qu'on va retrouver, mais il y a bien d'autres choses. Par exemple, le premier lieu qu'on retrouve est très éloigné de Calais, c'est Venise.
Oui, oui. Disons que les hyperlieux, ce sont justement ces lieux un peu étranges et énigmatiques où finalement la mondialité se cristallise et où la tension entre ancrage et mobilité est la plus explicite. Hein, ce sont les lieux les plus traversés et les plus traversants. Et donc je commence par un lieu touristique parce que les lieux touristiques sont hyper au sens à la fois de l'hypermarché, il y a une sorte de suraccumulation, mais sont hyper aussi au sens de l'hyperlien, c'est-à-dire ils nous renvoient à un monde de connexion. Un monde où finalement on est toujours quelque part et potentiellement connecté à un ailleurs. Et ça me permet ensuite de réfléchir à ce paradoxe de la mondialisation, un de plus, parce que moi je fais partie de ces chercheurs en sciences sociales qui estiment que la mondialisation installe des réalités sociales équivoques. Voilà. Et que nos rapports à ces réalités sociales équivoques sont ambigus. Ça vient d'être dit tout à l'heure lorsqu'on fait des migrants des acteurs du capitalisme transnational. C'est une réalité équivoque. Nous avons des migrants pauvres, très très pauvres au sens classique du terme, très peu dotés en capitaux économiques, mais pas forcément peu dotés en capitaux sociaux et en capital culturel, des acteurs pauvres qui sont volontairement au service d'une mondialisation économique qui peut par ailleurs être récupérée à son profit par des acteurs très puissants et très globaux. Tenez par exemple les 8 ou 10 milliardaires qui concentrent la moitié de la fortune mondiale. Ils le font sciemment. Et nous ne sommes plus dans les schémas d'exploitation classiques. C'est ça qu'un certain nombre de partis classiques ont du mal à comprendre. Eh bien, le monde est très équivoque en permanence, toujours. Et nous sommes, nous, en situation d'ambiguïté par rapport à ces équivoques. Vous l'avez d'ailleurs dit parfaitement. À chaque fois qu'un chercheur aujourd'hui parle de ces réalités équivoques, il est mal à l'aise parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Eh bien, les hyperlieux me permettent de rappeler cette équivocité et cette ambiguïté. Le Le monde se mondialise, mais il n'a jamais été autant marqué par des lieux. Il n'a jamais été autant marqué par des endroits où se croiser, se rassembler, échanger, se connecter, faire état de ses capacités d'acteur logisticien et d'acteur spatial, profiter des possibilités économiques, culturelles, sociales. Que faisons-nous de ça? Eh bien, moi, je dis que nous avons à y réfléchir parce que politiquement, c'est un sujet explosif, parce que ce jeu entre le monde mondialisé et les hyperlieux hyperlocalisés fait exploser les États-nations. Les États-nations ne veulent pas le reconnaître aujourd'hui. Nous sommes dans un moment de réaffirmation postiche des États-nations. Ça n'est pas un hasard si des gens comme Trump, le mot postiche s'applique bien à lui, y compris à sa chevelure, si ces acteurs-là sont aujourd'hui les acteurs dominants, parce qu'ils nous proposent un postiche qui est celui de l'État-nation, un leurre qui vient dire à ceux qui sont piégés par leur sédentarité, nous allons vous proposer une réassurance d'enracinement. Mais c'est un mensonge. On ne sortira pas de la crise des personnes piégées par la sédentarité. On n'en sortira pas par un réenracinement identitaire. Au contraire, on précipitera leur crise.
Lamia Missaoui, c'est absolument passionnant, effectivement, ce que raconte, explique Michel Lussault, parce que en réalité, il y a un renversement de paradigme total. C'est-à-dire que la ville qu'on pensait être un espace de sédentarité, en réalité, est devenue un espace où convergent les mobilités, précisément. Et où la connexion, les connexions économiques, politiques, culturelles sont possibles. C'est plus l'espace de sédentarité.
C'est devenu un carrefour des mobilités. En tout cas, grâce, là encore, à la présence des migrants, on peut penser que la ville devrait plutôt être pensée en termes de carrefour des mobilités. On a longtemps pensé, même l'école de Chicago, qui est l'un des penseurs les plus justes de la ville, eh bien, ils avaient fait une erreur déjà à l'époque en nous proposant l'idée que la ville était autosuffisante et que finalement, on pouvait se contenter de travailler sur la ville, à l'intérieur de la ville, pour comprendre les interactions sociales et les mobilités, etc. Or, avec les migrants et les analyses plus contemporaines, en y introduisant les réseaux sociaux et les mobilités, on voit à quel point, pour comprendre la ville, il va falloir sortir de la ville. Et quelqu'un qui est dans la ville, en tout cas le migrant qui est dans la ville, il est à la fois là et ailleurs en même temps. C'est ça qui le caractérise. Et ce qui est intéressant, c'est quand il est là, nous on le perçoit comme étant celui qui nous envahit brutalement, parce qu'il apparaît très brutalement comme voisin, comme commerçant, comme acteur différent en tout cas. Il apparaît très brutalement et il apparaît non seulement individuel mais collectif aussi, et il charrie avec lui tous les lieux d'étape qu'il a traversé et qu'il nous installe dans ces lieux qui est virtuel ou factuel ou réel. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve vraiment. Il nous propose, pour justement rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant, il nous propose de ne pas nous endormir sur nos lauriers du bien-être sédentaire. Il nous propose quelque chose d'autre qui est probablement de l'ordre d'une capacité à nous sortir de ces crises multiples dans lesquelles nous sommes constamment ramenés. Et la pire des crises, probablement, c'est celle du retour identitaire de l'un par rapport à l'autre, l'un avec l'autre.
Etc. Michel Lussault, je vous laisse réagir. J'aurai ensuite une question et puis ensuite on se tournera vers Dana Demine qui est au téléphone avec nous.
Oui, il est très frappant de voir que ce qui est scandé dans les meetings du Front National et qui a été à l'origine du titre du film de Lucas Bellevaux, c'est « On est chez nous ». Chez nous. Que reproche-t-on aux migrants lorsqu'on est souverainiste, nationaliste? Que reproche-t-on aux migrants? Mais que reproche-t-on aussi aux bobos des villes, aux élites mondialisées? On leur reproche d'être à la fois ici et ailleurs. On leur reproche cet outrage de ne pas être seulement des sédentaires, mais même de faire, dans une certaine mesure, l'apologie du mouvement et de ses ressources.
Alors, je vais peut-être...
Et je crois que c'est très significatif et très frappant de voir ça.
Et alors, est-ce que cette critique n'est pas justifiée? je vais vous provoquer, ces fameux bobos des villes, ces élites mondialisées, est-ce que réellement ils participent justement de la vie des territoires? Ces, appelons-les ces néo-nomades à qui finalement ces hyperlieux sont dédiés, que ce soit Venise, Times Square, les aéroports internationaux, il y en a beaucoup, beaucoup dans votre livre. Est-ce que finalement ils participent pas d'une certaine manière effectivement d'une fracture sociale? Est-ce qu'ils participent vraiment du vivre ensemble ou est-ce qu'au contraire ils sont un peu à l'écart de la communauté? D'une certaine manière, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages qui sont offerts par les États sans véritablement participer à la vie de la cité.
Je pense que ce reproche est très injustifié. Oui. Lorsqu'on regarde ce que l'on a appelé les hipsters ou les bobos ou les catégories de gentrifieurs dans la plupart des grandes métropoles, il est frappant de constater qu'une fois qu'on a passé une dénonciation un peu facile de leur égoïsme, il est frappant de constater que ce sont aussi des entrepreneurs, des consommateurs, que ce sont des gens qui s'engagent dans des structures associatives, qui développent les activités culturelles, qui proposent des formes politiques nouvelles, de même que les migrants ne sont pas simplement des prédateurs, des gens qui viennent...
Et que donc tout cela bénéficie aussi bien aux fameux sédentaires, ceux qui sont dans les trappes territoriales que vous décriviez tout à l'heure.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter. Les sédentaires eux-mêmes ne sont pas si sédentaires que cela. Ils croient qu'ils le sont, parce qu'ils sont surtout, ils sont surtout déséquilibrés, désarçonnés par des formes nouvelles de culture qu'ils n'ont pas pu ou voulu s'approprier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des situations concrètes, ça ne se passe pas si mal. Beaucoup d'exemples qui ont été faits où on laisse, par exemple, les espaces publics se réguler d'eux-mêmes, alors que nous sommes aujourd'hui dans une période historique où les pouvoirs publics veulent absolument contrôler les espaces publics, ce qui est un contresens. On veut de plus en plus les policer, alors que par définition, l'espace public, c'est un espace vide de pouvoir. C'est un espace où chacun peut apparaître comme il le souhaite. Quand les espaces publics ne sont pas hyper régulés, curieusement, ça ne se passe pas si mal. Les formes de régulation sociale interviennent, les formes d'échange interviennent. Je crois que ce qu'il faut casser, c'est justement ce raisonnement entre chez nous et pas chez nous.
Oui, c'est-à-dire que les élites mondialisées et ce qu'on appelle les laissés-pour-compte de la mondialisation, en réalité, ont des intérêts communs, beaucoup plus que ce que voudraient nous le faire penser un certain nombre d'hommes politiques qui récupèrent justement la colère de ces laissés-pour-compte.
Sur votre question et ne pas être trop bavard, c'est que nous avons tous des intérêts en commun, parce que dans mon précédent livre, je disais que ce qui nous rassemble tous, c'est que nous sommes tous cohabitants du même monde, y compris les sédentaires identitaristes, en réalité, ont des intérêts communs avec le migrant. Et ça se voit très bien à Calais. Pourquoi les Calaisiens anti-migrants n'ont pas compris qu'ils avaient des intérêts communs avec les migrants?
Je rebondis très vite sur... effectivement, il y a un lien très fort entre les gens, ce qu'on appelle les gentrifieurs, puis il y a même une grande proximité, et même dans le désir des bobos, par exemple, d'entrer en interaction. Le gros problème, c'est que la gentrification... C'est pas elle le problème, c'est qu'elle est utilisée par les pouvoirs publics comme étant une face cachée de la mixité sociale. On dit mixité sociale et en réalité on installe des populations qui ont un tel désir de confort, une telle volonté de bien-être qu'au bout d'un moment le lieu ne peut plus être partagé parce qu'il devient inaccessible pour tout un pan de la population, notamment ceux qui sont très pauvres. Voilà.
Des zooms pour voir? Vas-y, appelle le passeur. Bonjour, tu vas bien? J'aimerais que tu nous conduises à Evzoni. Mon pote, j'aurais besoin de 4 à 5 voitures. Je suis pas seul, on est une quinzaine de personnes. Ok, je te fais signe, aucun problème. Merci.
On utilise beaucoup de supports technologiques, comme le GPS. Et des milliers de Syriens sont déjà passés, donc ils nous donnent des conseils. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a qu'à suivre et on arrivera en Allemagne.
Eh oui, aujourd'hui, les migrants ont quasiment tous en leur possession des téléphones portables. Ils sont des utilisateurs chevronnés de vidéoconférences, de réseaux sociaux. Tout cela leur permet de rester connectés avec leur famille, leurs amis, de garder justement ce fameux ancrage culturel et territorial dont on parlait. Bonjour, Dana Diminescu.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, enseignante-chercheure à Télécom Paritech et fondatrice et directrice du programme Migration et Numérique de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Je vais vous poser une question.
Je vous interromps. Le programme est aujourd'hui à Télécom Paritech et
voilà.
Diaspora Lab.
Merci, pardon pour l'erreur, merci pour la rectification. Je vais vous poser une question générale, simple et brutale. En quoi l'émergence des nouvelles technologies ont transformé le parcours des migrants et aussi son rapport à l'exil, Dana Diminescu?
Alors, l'émergence de ce type d'écologie nouvelle qui intègre cet environnement digital est une vraie rupture dans les migrations. Apporte vraiment une nouvelle figure. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Michel et Damien ont dit un peu avant. Il y a une vraie rupture dans la manière de concevoir le migrant. Je pense que le migrant déraciné s'en va et que le migrant que j'appelle connecté est arrivé et il est arrivé depuis un moment. C'est-à-dire qu'on a évoqué en début, observer que déjà au début des années 90, il faut regarder les stratégies d'usage des communications et des transports parce qu'elles sont pleines et riches d'enseignements. En fait, vous savez que le migrant déraciné est décrit par la double absence, ni là-bas, ni ici, et que la sociologie longtemps a pris du temps à se plancher que sur les absents et faire apologie de ces absences. Or, les nouvelles technologies apportent aujourd'hui différentes formes de présence et avoir un téléphone dans la poche et peut-être sans papier, c'est en effet un grand changement dans la vie des migrants.
Oui, on n'est plus dans une situation de double absence, mais en réalité plutôt de double présence d'une certaine manière avec ce migrant connecté. Vous expliquez une chose très intéressante dans la Diminescu, c'est que le rapport du migrant à la frontière, il a beaucoup changé également. Avant, cette frontière, elle était essentiellement physique, géographique, et aujourd'hui, cette frontière, elle est aussi, et peut-être même avant tout, numérique, en tout cas aussi numérique, Dana Diminescu.
Ben, j'ai réalisé cela dans un entretien que j'avais fait, et quand un migrant m'a dit, ils m'ont cherché sur l'écran, ils ne m'ont pas trouvé, et je suis passée. Et en effet, je réalisais à ce moment-là que la frontière n'est pas seulement géographique. Elle est cette porte par laquelle on passe aujourd'hui, c'est avant tout une porte informatique, un fichier où on laisse passer si on est propre dans l'ordinateur. Ça veut dire notre code, le nom, la date de naissance, etc., peut passer par cette porte-là, qui est un fichier en général de délivrance de visa, mais de toute façon, un passage informatique. Cette frontière est ubiquée et individuelle aujourd'hui.
Dana Diminescu, vous avez dirigé un travail de recherche sur les pratiques numériques des diasporas, qui a été rassemblé notamment sur le site l'e-diaspora Atlas, qu'on peut retrouver très facilement sur un moteur de recherche, et vous proposez des cartes des diasporas chinoises, égyptiennes, indiennes, juives, mexicaines, et de leurs habitudes en matière de numérique, et vous écrivez la chose suivante. Plus l'état d'origine est fort, plus les sites administratifs et ceux des associations d'expatriés apparaissent connectés. C'est le cas de la France, par exemple. Plus l'État est faible, plus ses liens sont absents, voire controversés ou univoques. L'Atlas a permis d'observer, dites-vous, différentes formes de mobilisation des migrants sur le web, notamment la prise de pouvoir de petits groupes, plus ou moins légitimes, qui prennent la parole au nom de tous. On voit que les habitudes numériques, en réalité, dépendent de la force, de la puissance des pays dans lesquels ils se situent, des pays d'accueil. On parlait tout à l'heure de la fragilisation des États. Il y a un lien direct, là, Dana Diminescu.
Oui, en effet. Pour donner un le meilleur exemple, c'est celui de la, on dit rarement diaspora française, mais des expatriés françaises qui sont très liés en fait au site institutionnel. Mais cela a une explication parce que il existe une e-administration que l'État français a organisée parce que il propose des services à distance. Et que les migrants se connectent, bien entendu, à l'État français, parce que ils trouvent la protection sociale, l'éducation à distance et la possibilité de voter. Cette chose-là ne se retrouve pas dans les États qui ne proposent pas ça à leur diaspora. Par contre, les États d'origine des migrants sont aussi intéressés des nouvelles technologies que les États qui reçoivent des migrants. certainement les États qui le reçoivent dans une logique plus de contrôle et les États d'où proviennent les migrants dans une logique plutôt de capter les ressources que portent ces migrants, qui sont à la fois, de, bien entendu, de transfert d'argent, mais aussi de capital de plus en plus intellectuel, voire ici celui des élites professionnelles dont vous parlez, et également de capter leur présence ailleurs, de construire, si vous voulez, un État au-delà des frontières d'État.
Lamia Missa, oui, vous voulez réagir.
Oui, juste pour dire que, bonjour Dana, que l'éthique, les nouvelles technologies de communication sont d'autant plus importantes aujourd'hui qu'en réalité, ils permettent à l'étranger d'être constamment connecté avec chez lui, du pays, dans le pays où famille, milieu d'origine, etc. Et ça rend d'autant plus difficile, en réalité, cette idée qu'on puisse le sédentariser quelque part chez nous. En fait, les anciens migrants historiques, ils n'avaient pas autant que ça de téléphone, donc ils ne pouvaient pas s'appeler tous les jours. Ne pas s'appeler tous les jours, eh bien, on se place, on s'installe ici. Aujourd'hui, être connecté avec Skype, constamment avoir les siens par téléphone, on ne peut pas se permettre de les oublier aussi rapidement. Donc ça facilite pas, je dirais, ce que nous défendons comme notion d'intégration. Donc il va falloir réfléchir, là encore, sur cette notion, en tout cas, qui permettrait de prendre des gens qui sont extrêmement installés chez eux, mais peut-être présents aussi physiquement chez nous.
C'est un bouleversement en profondeur, qui est en train de se produire. On parle parfois de révolution numérique, mais on voit bien à travers cet exemple de la question de la mobilité qu'il s'agit bien d'une révolution. On est en train de changer de paradigme, Michel Lucet.
Oui, on est en train de changer de figure. C'est pour ça que j'ai employé le mot figure en commençant, pour être très caricatural et schématique. Pendant longtemps, la figure du sédentaire a dominé. Puis, au XIXe siècle, au moment de l'invention de la grande ville industrielle, ça n'est pas un hasard si Baudelaire a formalisé la figure du flâneur, reprise ensuite par d'autres. Et aujourd'hui, quelle figure avons-nous en référence? Le nouveau flâneur mondial, qu'est-ce? Eh bien, c'est peut-être ce passant. Isaac Joseph a écrit un livre formidable qui s'appelle « Le passant considérable ». C'est peut-être ce passant, ce passeur, mais qui est aussi un connecteur de plus en plus grâce à la télécommunication. Une nouvelle figure est en train de s'esquisser depuis une quinzaine d'années. C'est cette réalité-là que nous avons sous les yeux. C'est ce monde-là que nous avons à observer, que nous avons à penser. Et c'est tout à fait passionnant parce que tout est neuf et les instruments de pensée aussi peuvent devenir neufs.
Il va falloir poser de nouveaux instruments, de nouveaux outils d'analyse. Merci infiniment à tous les trois. Dana Dimnescu qui était avec nous, Lamia Missaoui dont je rappelle l'ouvrage que vous avez coécrit, Transmigrants et nouveaux étrangers, Michel Lussault, L'homme spatial de la lutte des classes à la lutte des places, mais aussi Hyperlieu qui va sortir dans quelques jours. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été nos invités, nous avoir accompagnés dans ces pérégrinations autour de la marche qu'on va poursuivre demain. Merci beaucoup. Merci. Il est 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle depuis le début de la semaine des relations entre les États-Unis et la Chine, des perspectives en la matière. Et du côté américain, comment est-ce qu'on apprécie donc l'état des relations avec la seule vraie puissance rivale, c'est-à-dire la Chine?
Mais sur le site de Project Syndicate, toujours lui, j'ai relevé un article de Joseph Nye, un spécialiste démocrate des relations internationales qui a occupé d'importantes fonctions dans les gouvernements de Bill Clinton et de Barack Obama. Le président chinois Xi Jinping a lancé à Trump, dit-il, un avertissement. Il pourrait tomber dans le piège de Thucydide, à savoir celui d'une puissance dominante qui renâcle à l'arrivée d'un compétiteur de la même taille que lui et refuse de partager avec lui l'influence. Mais demande Joseph Nye, les Chinois sont-ils prêts à partager les responsabilités internationales qui vont avec la puissance? Or, c'est là une obsession des libéraux en Occident. Les Chinois veulent jouer comme l'un des acteurs majeurs de la scène mondiale, disent-ils, mais ils ne veulent pas partager avec les États-Unis le rôle de garant en dernier recours. Et là encore, on se tourne vers l'histoire. au piège de Thucydide de Xi Jinping, Nye lui réplique par le piège de Kindleberger. Charles Kindleberger, qui fut l'un des architectes du plan Marshall, était aussi un brillant historien. Il a laissé un des meilleurs livres disponibles sur la crise des années 30, qui s'appelle « La grande crise mondiale 1929-1939 ». Et l'idée centrale de son livre, c'était que pour que l'économie mondiale se stabilise, il fallait un stabilisateur et un seul. Or, après la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient remplacé la Grande-Bretagne dans le rôle de principale puissance mondiale, mais enfermés dans leur isolationnisme, ils ont refusé d'assumer les responsabilités inhérentes à ce statut nouveau pour eux. Alors, quelle responsabilité est censée assumer une telle puissance aux yeux de Joseph Nye ? Eh bien, fournir les biens publics dont les autres ont besoin afin que le système international puisse fonctionner correctement. Garantir en particulier la libre circulation maritime. Veiller sur le climat terrestre. Assurer une certaine stabilité monétaire et financière. Or, estiment de nombreux analystes américains, la Chine se comporte en free rider, en passager clandestin, si vous voulez, plutôt qu'en co-responsable. Peut-être ne se sent-elle pas dans l'obligation de protéger un ordre international dont elle bénéficie sans nul doute, mais à l'architecture duquel elle n'a pas participé. Elle ne se comporte pas, cependant, on ne peut pas le dire, comme une puissance révisionniste, comme le fait la Russie par exemple. Ce qu'elle semble viser, la Chine, c'est augmenter sa propre influence dans le système international tel qu'il fonctionne et non pas le bouleverser. Ainsi, bénéficie-t-elle trop de l'OMC pour vouloir la torpiller ? Et si elle a créé une banque rivale du FMI, elle ne cherche pas à remplacer ce dernier. Elle assume également pleinement sa part de charge à l'ONU, mais de nombreux États asiatiques ont relevé avec inquiétude l'été dernier la manière dont elle s'est moquée du jugement prononcé contre ses prétentions par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, saisie par les Philippines.
Et vous nous rappelez justement un peu les détails de cette histoire dont on a déjà parlé dans Culture Monde.
Après 3 ans de délibération, la Cour de La Haye a rendu son verdict le 12 juillet dernier sur la question des îles Spratly en faveur des Philippines. Or, Pékin a construit sur des récifs partiellement immergés 3 îlots artificiels en pompant dans le sable et les coraux des îles voisines. La Chine a installé sur ces îles artificielles donc un aéroport et 4 bases militaires qui font partie de la fameuse grande muraille de sable destinée à contrôler l'accès en mer de Chine méridionale. La Cour permanente d'arbitrage a donné raison aux Philippines sur tous les sujets en discussion. La poldérisation de bancs de sable à des fins de création d'une piste d'atterrissage, a déclaré la Cour de La Haye, constitue une violation du droit international. Pékin ne saurait s'en prévaloir pour exiger une zone économique exclusive sur cette région qui, comme on sait, est riche en gaz et en pétrole et surtout d'un intérêt stratégique évident. Les commentateurs estiment que par ce jugement, la Cour d'arbitrage de La Haye a fait perdre la face à la Chine, ce qui est très grave dans la culture asiatique. La Chine avait prévenu d'emblée qu'elle ne se plierait pas à la décision de cette instance internationale. Mais ce faisant, elle inquiète non seulement ses voisins, mais aussi ses partenaires. Et voilà reposée la question de savoir si la Chine entend jouer ou non selon les règles du jeu international en vigueur.
Ce qui pose aussi la question de savoir si l'élection de Donald Trump va porter un coup d'arrêt ou non à la mondialisation et quel effet ça pourrait produire pour la Chine.
Eh bien, la revue Foreign Affairs a publié à ce sujet un article assez passionnant de Eric X. Li, le fondateur d'un fonds d'investissement de Shanghai, qui est aussi l'un des collaborateurs du think tank britannique International Institute for Strategic Studies. Les dirigeants chinois ont bien tort de chercher leurs informations sur Trump et ce qu'il représente, dit-il, auprès des élites américaines. Car le tournant que s'apprête à faire prendre le nouveau président à la diplomatie américaine est sans doute plus proche de leur propre vision du monde qu'ils ne le pensent. Trump est un souverainiste qui croit davantage aux accords bilatéraux qu'aux institutions multilatérales, qui n'adhèrent pas à l'idéologie mondialiste qu'ont incarné chacun à leur manière, le libéral Bill Clinton, le néoconservateur George W. Bush ou l'internationaliste Barack Obama. Au nom de la mondialisation, ces administrations ont voulu bâtir un empire et imposer des normes aux dépens des nations. Eh bien, c'est terminé, on en reparle demain.
Merci beaucoup Brice Couturier, sujet passionnant qu'on continuera d'approfondir demain. On peut bien sûr retrouver votre chronique, mais aussi l'émission Culture Monde sur la page de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain Brice.